franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La nationalisation des banques françaises en 1981.
Je vais vous dire une chose, et je crois franchement que c'est une chose que vous ne savez pas. Lorsque vous déposez votre argent à la banque, vous participez à l'expansion économique. En effet, avec tout l'argent déposé à la banque peut aider à développer des entreprises qui, par exemple, créent des emplois. Ce que je vous propose, c'est très simple. Moi, je fais travailler l'argent que vous me confiez, et en échange, je vous rends service. Vous voyez ?
Vous vous souvenez, c'était dans les années 70, si votre argent nous intéresse, disait la publicité des banques, c'est au final pour soutenir l'économie. Alors inutile de dire que la gauche de l'époque, qui n'était pas encore gauche de gouvernement, était persuadée du contraire, pour favoriser en temps de croissance trop faible l'investissement et pour contenir la désindustrialisation qui se profilait, il fallait, pensait-elle, prendre les leviers de commande des compagnies financières et des banques d'importance. Parmi les 110 propositions du candidat Mitterrand, le principe de la nationalisation était une priorité. Et une fois la victoire proclamée, la promesse ne pouvait être abandonnée. Au motif de l'égalité de l'accès au crédit, 39 banques, 2 compagnies financières, Suez et Paribas, plusieurs grands groupes industriels aussi, furent nationalisés et au nom de l'équité, leurs actionnaires furent indemnisés correctement. Alors on peut faire aujourd'hui le récit apaisé peut-être de cette période et en esquisser le bilan économique et historique avec Olivier Feyertag. Bonjour.
Bonjour.
Qui est un spécialiste averti du gouvernement, non il faut dire pardon, la gouvernance de la Banque de France et un spécialiste des mutations économiques des années 1980. Vous venez de publier à l'intention du grand public, c'est-à-dire à notre intention, l'économie française de 14 à nos jours. C'est un numéro de la documentation photographique à la documentation française. On voit d'ailleurs un encart, le premier distributeur bancaire qui a fonctionné en 68. Oui, on n'imagine pas ce qu'étaient les banques de ces années 70, beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus disséminées, mais néanmoins déjà un peu informatisées et internationalisées beaucoup.
C'est vrai qu'en 30 ans, le paysage bancaire a vraiment changé. Au début des années 80, les banques en France, c'est un colosse. On a oublié combien on était dépendant des banques. Et cette publicité qu'on a entendue, qui émanait d'ailleurs de la BNP, qui venait d'être créée, le montre bien. La société est bancarisée comme elle ne l'est pas. Quand elle ne l'est plus aujourd'hui à ce point-là. 80-92% des ménages ont 1, 2, 3 comptes en banque, et toute l'économie surtout, repose sur le financement des banques. Un colosse certainement, un colosse au pied d'argile aussi, vous venez de l'indiquer, parce que ce système bancaire doit beaucoup à l'État, depuis 1945, doit beaucoup à l'État, est essentiellement un système bancaire qui vit dans le vase clos des frontières nationales. Et son internationalisation, comme on commence pourtant à le dire dans les années 60-70, commence tout juste.
Mais il n'y a pas quand même des grandes banques françaises qui ont un rang mondial ?
Alors les grandes banques françaises sont actives dans les années 60 sur les euromarchés. C'est le cas du Crédit Lyonnais, c'est le cas de la Société Générale, c'est le cas surtout des banques d'affaires, notamment Paribas, là, le fleuron d'entre elles, qui effectivement, depuis sa création à l'orée du XXe siècle, est une banque qui travaille à l'étranger. Mais malgré tout, le nerf de la guerre, c'est le caractère national de ce système bancaire.
Averti par sa mémoire, 1936-1945, la nationalisation de la Banque de France, obligée par son programme, le programme commun de gouvernement, la gauche propose la nationalisation. C'est un grand objectif politique.
Et c'est une mémoire très longue. Et ça, c'est vrai que ça, cette mémoire, cette histoire, mémoire qui imprègne la gauche française. Pierre Mauroy le dit très bien dans son discours.
Premier ministre.
Le Premier ministre Pierre Mauroy, à peine arrivé à la tête du gouvernement, énonce son programme. Il faut, dit-il, parachever ce long cycle historique de la nationalisation du crédit et de rappeler les antécédents et de rappeler le programme commun 1972 avec le Parti communiste, on le sait, et de rappeler 44, le Conseil national de la résistance, et de rappeler même 36, voire encore au-delà, le tout début du XXe siècle avec la première prise de contrôle par l'État d'une entreprise, c'était dans les chemins de fer.
Oui, mais il faut dire que la gauche est très préoccupée du mur d'argent qui peut se dresser contre elle. Expérience malheureuse à la fin du cartel des gauches, ça nous remonte à la plus haute antiquité sous Édouard Herriot ou à l'époque du Front populaire en 1936.
Alors c'est vrai qu'il y a dans le discours politique des effets de persistance rétinienne extrêmement forts. Le mur d'argent en est un. Et on est frappé de voir dans les discours des acteurs de gauche de l'époque, public ou privé d'ailleurs, l'obsession de la menace du mur d'argent. Et il y a un travail récent qui vient de sortir de Vincent Duchossois sur ce thème qui montre que l'obsession est là, inchangée, mais la réalité change pourtant. Le mur d'argent n'est plus le même au début des années 80.
Est-il fait de pierres de taille ou de petits cailloux ? On répondra à cette question dans un instant. Alors, on peut dire que la question est au centre, la question de la nationalisation du débat de la campagne de 81. Tour à tour, on va entendre ici l'argumentation de l'un des porte-parole du monde des banquiers, Jean-Maxime Lévesque, le Crédit Commercial de France. Et puis ensuite, vous reconnaîtrez l'intervention du meilleur porte-drapeau de la rigueur.
Il ne faudrait tout de même pas prendre les banquiers pour les boucs émissaires, pour s'excuser des difficultés du moment. En fait, le gouvernement maintient un encadrement du crédit très sévère, c'est-à-dire que les banques ne sont pas autorisées à augmenter de plus de 2,5% le volume total de leurs prêts. Et en même temps, il voudrait que nous fassions de nombreux crédits et de très importants crédits aux entreprises. Il y a là des objectifs contradictoires. Alors, si on nous accuse de ne pas pouvoir trouver des solutions à ces objectifs contradictoires, je crois qu'on utilise les banques comme des têtes de Turc.
Les nationalisations abusives et l'étatisation généralisée du crédit, parce que ces mesures s'accompagneraient d'un cortège de réglementations, d'interdits, de carcans administratifs divers, dont les effets n'aboutiraient qu'à la paralysie d'initiative et qui, disons-le tout net, pourrait conduire à des risques sérieux pour nos libertés.
Raymond Barre, Premier ministre du gouvernement battu en mai 81, son successeur est Pierre Mauroy qui dit « Mais non, il n'y a pas de risque d'étatisation comme le prétend Raymond Barre. »
Oui, là, on est au cœur du débat politique. C'est-à-dire que véritablement, ce qui est en jeu à ce moment-là, c'est liberté contre dirigisme, l'État contre le marché. Et cette grille de lecture-là, elle imprègne complètement le débat des années 80, 81, 82 encore. Et derrière cette idée, il y a peut-être une confusion entre la nationalisation et l'étatisation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La gauche veut nationaliser au nom de la nation, dans sa totalité. La droite dénonce l'étatisation au profit d'une partie de la nation. Et là, il est mal entendu.
Oui, on va continuer à avoir un pluralisme des banques, dit Pierre Mauroy. On va pouvoir choisir sa banque, changer de banque, et tout ne sera pas sous la tutelle du gouvernement. Alors, il y a la protestation politique, on y reviendra, mais il y a aussi la spéculation financière. Les tensions dès l'arrivée au pouvoir sont fortes. La Banque de France et son gouverneur préviennent sans arrêt le gouvernement. En amont, attention à l'inflation. En aval, on ne va pas vous distribuer des avances automatiquement, monsieur le ministre des Finances, monsieur le Premier ministre.
Ça, effectivement. L'État nationalisateur n'est pas homogène en 1981. Et c'est ça que la gauche découvre. Au sein de l'État, il y a la Banque de France. C'est la banque d'émission, celle qui imprime les billets de banque. Et la banque d'émission, par la voix de son gouverneur, le mot est bien choisi, Renaud de la Génière, met en garde immédiatement le gouvernement. La France n'est pas seule dans le monde. Le système bancaire français, par de multiples ponts, est regardé par l'ensemble de la communauté et des marchés financiers internationaux.
La gauche dit que le gouverneur a l'écorce un peu raide.
Il a l'écorce un peu raide. Il est surtout bien au courant de tout ce qui se dit à la communauté européenne et ce qui se dit parmi les banquiers centraux. Et il sait que la banque en France est l'objet d'une surveillance internationale.
Alors, il y a aussi la tension à la bourse, avec les valeurs des entreprises nationalisables qui, évidemment, baissent, les cours des valeurs étrangères qui haussent. Le mur de l'argent est-il fait de pierres de taille ou de petits cailloux ?
En tout cas, le mur de l'argent, à cette date, il est fait de murailles qui ne sont pas forcément sur le sol français. Et il faut bien comprendre que ce mur d'argent des années 80, on peut aussi bien le voir à Bruxelles, autour de la Commission européenne, que sur les marchés financiers à Zurich ou à Londres. Et ça, c'est la grande nouveauté.
Et puis, le mur de la gauche est susceptible aussi de lézardes. On sait qu'il faut faire vite. Le Conseil des ministres se réunit à Rambouillet. C'était l'époque où on utilisait encore Rambouillet. Maintenant, on l'utilise moins pour des raisons d'économie. Nous sommes le 2 septembre 1981.
Journée de travail et de réflexion du gouvernement grand complet, avec un Conseil des ministres ce matin, un Conseil restreint de 14 membres cet après-midi, et dans l'intervalle, moment de détente pour le président de la République et ses ministres, une promenade dans le parc du château de Rambouillet pour les uns, un tour de barque sur le petit lac pour le Premier ministre et le secrétaire d'État chargé des nationalisations. Le projet de loi sur les nationalisations a d'ailleurs été au centre des travaux de la journée. Tous les ministres sont d'accord sur le principe, le bien fondé de l'opération. La discussion porte encore sur les modalités d'indemnisation et sur certains problèmes à caractère technique.
Tous les ministres d'accord.
Ça, c'est l'image d'Épinal. C'est l'image d'Épinal parce que même si c'est l'état de grâce, d'ores et déjà, les archives le montrent, au sein du gouvernement, les tensions sont fortes. Et la principale, au sein même du Parti socialiste, on parlait du Parti communiste ici, qui est au pouvoir aussi, s'oppose bien sûr ce qu'on appelle depuis quelque temps la deuxième gauche, dont Jacques Delors, ministre de l'économie et des finances, et apparaît à tort ou à raison comme le porte-parole. Et la question technique, en apparence, va se créer à ce moment-là sur le seuil de nationalisation. 2 milliards de dépôts, propose Jacques Delors, 500 millions, propose Pierre Mauroy. C'est un choix de société derrière cette question de seuil.
Et puis aussi le pourcentage de la nationalisation, 100%, ou, dit Michel Rocard, qui est un petit ministre du plan, relégué au second plan, en fait, si on se limitait à 51%. Alors, un conseil interministériel à l'Élysée, Michel Rocard, porteur de son lourd cartable, repose la question. François Mitterrand et Pierre Mauroy lui disent, François Mitterrand n'est pas là, Pierre Mauroy lui dit, eh ben, c'est tranché, par qui, comment, quand, demande Michel Rocard, qui reprend son cartable, qui quitte la pièce en claquant la porte. François Mitterrand et Pierre Mauroy ont tranché, puis on connaît l'antienne des discours de Mitterrand orateur. L'argent tue, l'argent pollue.
Un jour, il inventa l'argent. Ce démon très intelligent qui sut comprendre le premier la valeur d'un bout de papier. Ce démon était un banquier et depuis, dans le monde entier, l'argent circule. L'effet débute. L'Afrique, pom pom pom, magique, pom pom pom, l'artiche, pom pom pom, fortiche, pom pom pom, la bande, pom pom pom, la blanche, pom pom pom, la paye, pom pom pom, l'oseille, pom pom pom, pognon, pom pom pom, million, pom pom pom, le blé, pom pom pom, gonflé, pom pom pom, les louis, pom pom pom, inouï, pom. Les briques, pom pom pom, ratiques, pom pom pom, affures, pom pom pom, carbure, pom pom pom, le pèse, pom pom pom, la bresse, pom pom pom, le jonc, les ronds, pom pom pom, ferraille, pom pom pom, mitraille, pom pom pom, bénef, pom pom pom, bézef, pom pom pom, pourliche, pom pom pom, bacchiche, pom pom pom, les rentes, pom pom pom, ma tante, des sous.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La nationalisation des banques en 1981 avec Olivier Feiertag. Alors il y a le mur de l'argent, il y a aussi le labyrinthe du droit. Une fois le projet de loi de nationalisation adopté en Conseil des ministres, il y a le passage au Conseil d'État. Puis il y a la mitraille, comme disent les frères Jacques, la mitraille parlementaire. Le débat à l'Assemblée nationale commence il y a 30 ans exactement.
Et le débat fait rage. Le débat fait rage longtemps. Il faut attendre quand même le mois de février 82 pour qu'il aboutisse. Le débat fait rage longtemps parce qu'on touche là à quelque chose d'essentiel. Cette chanson des frères Jacques, elle le montre du reste. Il y a une allergie des Français à la banque et à l'argent. Et ça, les hommes politiques ne peuvent pas ne pas en tenir compte. Les parlementaires de droite vont chevaucher ces thèmes et vont jouer sur des choses extrêmement essentielles. Les Français n'aiment pas l'argent, mais ils sont attachés à leur liberté. La mesure, finalement, qui inquiète plus encore que les banques nationalisées, c'est le carnet de change, c'est le contrôle d'échange. Et ça, c'est des millions de gens qui vont avoir à en passer par là.
Les députés de droite, ils sont d'ailleurs persuadés que le gouvernement de gauche ne durera pas un an ou deux. On peut citer deux, trois noms, les trois mousquetaires.
Michel Noir, Charles Mignon, François Daubert qui font leurs premières armes et qui vont apparaître comme déjà porteurs d'un autre projet de société, disons le libéralisme.
C'est au moment où le débat fait rage à l'Assemblée nationale qu'éclate l'affaire Moussa, du nom de Pierre Moussa. Il est plutôt classé à gauche, c'est un ancien haut fonctionnaire. Il est le patron très récalcitrant de Paribas et il fait passer des actifs de Paribas en Suisse.
Paribas Suisse échappe donc à la nationalisation. La filiale du groupe passe sous le contrôle d'une société suisse de holding, Pargesa. Bien entendu, cela jette une lumière particulière sur la démission hier du PDG de Paribas, Pierre Moussa. Il s'était engagé auprès du gouvernement à ce qu'aucun des actifs de la société n'échappe à la nationalisation. Déjà hier, le ministre des Finances, Jacques Delors, constatait amèrement qu'il n'avait pas tenu ses engagements. Et aujourd'hui, c'est Pierre Mauroy qui est furieux.
Si on essaie de soustraire à ce qui était Paribas, qui doit être nationalisé, certains de ses actifs, eh bien je dis que M. Moussa ne se comporte pas comme citoyen doit se comporter, qu'il a une mentalité d'émigré, hein, et que ceci est très grave.
En tout cas, cette affaire Paribas a provoqué une mêlée quasi générale dans les milieux politiques et financiers. Ce matin même, à l'ouverture du Congrès socialiste, c'est Jean Popren qui a administré une première volée de bois vert aux banquiers.
Pour l'instant, l'opposition parlementaire n'a d'autre souci que de provoquer une situation de difficulté, voire de déstabilisation dans les entreprises nationalisables. Elle joue la montre et pendant ce temps, les capitalistes organisent la fuite des capitaux, ils jouent à la baisse des actions françaises et ils font main basse sur une partie de Paribas. Voilà la réalité pendant qu'on nous amuse à l'Assemblée.
Incroyable effet du temps qui passe. Hein, Valence. Ses voix. Valence, 1981, octobre, il y a tout juste 30 ans. L'affaire Moussa, elle est passionnante pour les historiens de la banque parce qu'elle met bien en lumière, de manière décisive, l'importance du clivage français-étranger. Parce que quand François Mitterrand dit « il ne se comporte pas en bon citoyen », il aurait pu dire « en bon français ». Parce que fondamentalement, nationaliser, c'est aussi définir une nouvelle fois toute la valeur de l'économie nationale dans ses frontières. Et ce que l'affaire Moussa révèle avec la Suisse, avec tous ces sentiments que l'affaire met en branle, c'est bien le problème de la validité de cette économie nationale dans un monde qui change très vite et qui remet en question ses frontières.
Oui, mais les références des leaders socialistes sont très nationales. Paul Quillès, qu'on va surnommer Robespol, parce qu'il dit au congrès de Valence...
Les têtes doivent tomber. Ouais. Il cite Thermidor et Robespierre. C'est le parti socialiste est l'héritier de la Révolution française, qui est une révolution nationale, de toute façon.
François Mitterrand est en déplacement au Mexique, c'est la conférence de Cancun, et quand il rentre, entendant les échos de l'Assemblée nationale et du congrès de Valence, il dit « Vous n'avez pas trouvé le ton juste ». En effet. Alors, une longue période d'aller-retour, là, commence. Le Sénat, à l'époque, il est à droite, il refuse.
Il retoque, oui. Ouais.
Alors, donc, en dernière lecture, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a raison. C'est le début de l'extension de l'influence du Conseil constitutionnel.
Et alors ça, c'est l'aspect, c'est le volet juridique, hein, du Conseil constitutionnel qui va mettre en évidence notamment un point qui est crucial ici, qui est la question des filiales étrangères des groupes nationalisés. Qu'en faire ? Est-ce qu'en nationalisant la tête en France, de facto, on prend le contrôle sur ce qui échappe au contrôle régalien de la souveraineté ? Et c'est là-dessus que le Conseil va jouer, de la même manière sur l'indemnisation des actionnaires aussi.
Là, c'est au nom de ce principe d'équité, qui émerge, l'équité.
Tout à l'heure.
Donc on va calculer l'indemnisation des actionnaires d'une manière plus favorable aux actionnaires, c'est à côté du... Donc alors, plus cher les nationalisations.
Finalement, oui, puisqu'on on prend les 6 derniers mois de référence et pas 3 ans. Donc, ce qui est un peu plus favorable, c'est l'influence de Jacques Delors.
Vous connaissez la formule d'André Rousselet, qui
non,
est un proche collaborateur de François Mitterrand. Il dit, c'est comme une histoire juive. Comment faire une petite fortune sous François Mitterrand ? L'interlocuteur ne sait pas répondre. Et André Rousselet lui dit, eh ben, il faut avoir une grande fortune avant et vous en aurez une petite après. Est-ce que c'est le cas des... Rothschild, Pierre Moussa a émigré, mais aussi Guy de Rothschild qui a quitté la France.
Vais-je purement accepter d'être exclu de la vie économique de mon pays ? Non. Relever le défi veut dire continuer à exercer mon métier comme je le peux et de maintenir la présence, la crédibilité de la branche française de ma famille. Simplement, je constate que 2 fois dans mon existence, l'institution Rothschild a été abattue. Alors, bien sûr, sous Pétain, on peut dire que c'était l'influence allemande, car c'était un acte bel et bien français. C'était le ministre de la Justice Alibert, si on peut employer cette expression, le ministre de la Justice quand on parle d'Alibert. C'était le gouvernement Pétain. Et que maintenant, la gauche vient au pouvoir, elle n'a pas visé spécifiquement les Rothschild, et je ne fais pas un procès d'intention, il ne faut pas être injuste, mais finalement a abattu également l'institution Rothschild. Alors donc, je trouve que ça suffit.
Et c'est ainsi que le syndicat des éleveurs de chevaux de sang est privé de son président.
Et c'est surtout comme ça qu'apparaît ce long cycle d'histoire de la France juive de 1886 de Rumont à 1980, en passant, comme il le rappelle Guy de Rothschild, par la France de Pétain. Il y a sur le cas Rothschild la mise en jeu de l'appartenance de ces banquiers cosmopolites à l'économie et à la société nationale.
Les présidents sont nommés par le gouvernement. On retrouve Jean-Yves Abrère, ainsi à Paris-Bas, à la place de Moussa. Et puis, un homme assez étonnant, pittoresque, une petite banque du Nord, Scalbert Dupont, Robert Fossart, qui est professeur, et qui est un professeur qui pense aux dimensions du monde. Peut-être un des rares patrons des banques nationalisées de cette dimension.
Oui, ça, c'est vrai que c'est important de montrer que la nationalisation, ça n'a pas seulement eu ce volet politique et polémique, il y a aussi un changement dans le personnel. Et ces nouveaux présidents, directeurs généraux des banques nationalisées représentent une génération, certes proche de la gauche, mais qui a une vision différente. Et ça, l'électorat, le Parti socialiste réuni à Valence, ne s'en rend pas compte tout de suite. Il y a un décalage très fort.
Alors, les années passent. Je ne sais pas si on peut faire le bilan pour la période 81-86. Les banques sont obligées de se porter au secours des grandes entreprises nationalisées déficitaires. Et c'est ça une des raisons de leurs difficultés.
Alors, les banques qui étaient déjà la bonne à tout faire de l'économie continuent à l'être encore plus dans la crise. Alors, elles sont mises à contribution. Le bilan, du point de vue quantitatif, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, les nationalisations. C'est-à-dire que les banques n'ont pas été le levier pour sortir la France du chômage et de la dépression. Mais en même temps, des éléments sont mis en place, des structures changent, qui préparent déjà, dès 1981, les mutations qui vont venir.
Alors, les mutations qui vont venir. Au secours, la droite revient. C'est la campagne électorale de la gauche en 86. Et, en effet, Jacques Chirac devient Premier ministre. Son ami Édouard Balladur, ministre des Finances. C'est la première vague de privatisation.
Être célèbre très jeune, ça vous apprend très vite à faire des choix. Des choix de films, de réalisateurs. Sinon, on ne tient pas sa vie, on s'aperçoit qu'on ne sait pas où on va. Pour l'argent, c'est pareil. Moi, j'aime bien le dépenser, mais je sais aussi qu'il faut le garder, donc le placer. Et je pense que les gens de Suez, c'est le bon choix. Ils savent où ils vont, depuis longtemps, et pour longtemps encore. Ce sont les stratèges de l'argent. Réfléchissez.
C'est le bon choix, une formule giscardienne reprise, on l'a reconnue par Catherine Deneuve. Première vague de privatisation 87.
Première vague qui sera suivie d'autres vagues de privatisation, hein, puisqu'en fait toute la fin du XXe siècle va être pleine de ces privatisations, avec au bout du compte, là aussi, l'impression que le bilan est difficile à quantifier.
Alors l'exemple vient de l'étranger, il est sans arrêt mis en avant, l'Angleterre. 87, donc première vague, après c'est le Nini. Quand la gauche reprend les commandes, ni privatisation ni nationalisation, la deuxième vague, c'est 1993. Encore Édouard Balladur, mais cette fois Premier ministre, le Crédit Lyonnais va être concerné, la Banque Hervé, la Société Marseillaise de Crédit, etc. Alors, si on fait un bilan, des bilans d'après la privatisation, ils ne sont pas nécessairement meilleurs, ces bilans des banques, qu'à l'époque de la nationalisation.
C'est vrai que l'impression qu'on a, c'est que cette alternance, qu'il s'agisse d'une Nini ou privatisation-nationalisation, il y a une forme d'impuissance du politique sur l'appareil financier et bancaire, qui évolue comme si finalement, à la surface, ces changements de marée n'avaient pas une grande importance. Et ça pose le problème de savoir qu'est-ce qui se passe véritablement. Où sont les manettes? Où sont les commandes de ce système financier qui évolue très vite depuis 30 ans?
On revient donc à l'hypothèse de Robert Fossart. On change d'échelle.
On change d'échelle et le mot ici, c'est d'ailleurs des responsables socialistes qui l'emploient très tôt, dès 1981, parmi les premiers. Ils publient un petit livre en 1981 sous le titre d'un pseudonyme, Thomas Lefranc, qui regroupe en fait des hauts fonctionnaires des finances. Ça s'appelle l'imposture monétaire. Et ils donnent la clé dans ce livre. Ils disent « s'il faut nationaliser, c'est pour faire face à la mondialisation ». Et c'est à ma connaissance la première fois qu'en France, on emploie ce mot avec ce sens précis d'une transformation globale de la façon de produire et d'échanger à la surface du globe.
Alors, vous parlez de mondialisation. Maintenant, on a l'impression que les États doivent recapitaliser des banques qui se lancent dans des aventures financières sur les marchés des capitaux à l'échelle internationale.
Alors évidemment...
Recapitalisation plutôt que nationalisation.
La recapitalisation, ce n'est pas la nationalisation, encore que techniquement, c'est la même chose. C'est les États, pas forcément l'État, mais les États qui reviendraient en France, en Allemagne, dans le capital des banques. Alors on pourrait dire, bah alors tout ça pour rien, finalement, on revient en arrière. Eh bien, je crois que justement, la leçon de cette histoire qu'on commence à faire maintenant, des nationalisations de 82, c'est de montrer que le monde a changé. Et que le monde bancaire a changé, mais que le monde autour des banques, que les sociétés ont changé. Et que par conséquent, ce n'est pas sans intérêt de montrer que la recapitalisation, ce ne sera plus jamais la nationalisation.
Pierre Moussa, 89 ans maintenant, donne une interview à La Croix. Il est revenu de l'étranger. Il se livre à l'aide sociale au monde africain. Et il dit « Je ne comprends plus très bien le monde de la banque d'aujourd'hui. » Alors, grande transformation, il faudrait mettre fin au système de la banque universelle. C'est ce qu'on dit maintenant, et c'est un clivage qui dépasse la gauche et la droite. La banque universelle, c'est la banque qui s'occupe de tout et qui mêle beaucoup d'activités d'investissement sur les marchés financiers aux activités de détail classiques.
Oui, c'est l'idée de faire des coupe-feu. C'est-à-dire que finalement, la banque de détail, la banque de dépôt, la vôtre, la mienne, c'est celle des sociétés. Et l'idée, c'est de les protéger, ces sociétés. Alors la recapitalisation, c'est de nouveau les États-nations, qui vont dire, attention, ces banques-là, c'est celles de nos sociétés, on les protège. De ce point de vue, cette mondialisation, c'est peut-être finalement ce match entre les États et les forces dynamiques du marché.
Oui, mais mettre fin à la banque universelle, c'est aussi séparer les activités de dépôt, celles qui vous concernent ou celles qui concernent les entreprises dans le détail de leurs activités courantes, de l'aventure financière.
Oui, mais quand vous dites l'aventure financière, vous pensez en fait à l'étranger, vous pensez en fait à l'international. Et c'est ça la clé, c'est qu'on va essayer de redresser entre les marchés de l'argent les frontières nationales.
Mais cette préoccupation dépasse la gauche et la droite en Allemagne, tandis qu'en France, c'est seulement du côté du Parti Socialiste qu'on prône la séparation dépôt et marchés financiers, banques sur les marchés financiers.
Certains la prônent, c'est vrai, mais c'est un peu comme à Rambouillet en 80, derrière l'image de façade, le débat fait rage, on le sait aussi.
Le SMIC est en plein chantique, la TVA nous suce le sang et la bourse fait la malle.
Ça, c'est la leçon de l'opinion. Jacques Sigal, notre réalisateur, avec Grégory Vallon et Sophie Moreno, nos techniciens. Réponse dans l'économie française de 14 à nos jours. Le temps de la mondialisation, c'est bien de cela que nous avons parlé avec vous, Olivier Feyartag. Il est loin, le temps des années 80, non ?
Il est assez loin maintenant.